Carrefour.
Quand vous me dites...
Ah, moi je l'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 68% de remise immédiate sur le deuxième produit Durex acheté. Et c'est valable sur tout Durex. Du coup...
Oh, ben comme ça, tout le monde est content.
Et c'est jusqu'au 7 juillet, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Dispositif médical, pour plus d'informations, consultez la notice.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, du lundi au vendredi sur RMC, RMC Story de Canal 23 de la TNT. On a commencé à midi, il a accepté de rester avec nous jusqu'à 15h. Alfred Orange est là, journaliste RMC, Perico Legas, journaliste à Marianne, Thierry Moreau, journaliste média, Yael Mellul, ancienne avocate et présidente de Femmes et Libres. Dans un instant, on va parler de la hausse des incivilités contre les agents SNCF. Devenons-nous de plus en plus agressifs? Vous nous appelez au 32-16 à 14h30. Ce sera RMC Conso. Ces grandes marques qui vous offrent un cadeau pour votre anniversaire, on a tous reçu ça dans notre boîte mail. Mais est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce vraiment gratuit? On verra ça. Et puis à 14h40, les immanquables d'Alfred. Alfred, on parlera de quoi notamment?
On parlera des agriculteurs de Périgueux qui se mobilisent contre l'arrivée d'un fast-food Burger King dans leur ville. Et puis on abordera aussi cette évasion de 14 étrangers détenus du centre de rétention administrative de Vincennes qui se sont évadés ce week-end.
Et juste après les immanquables, on rira ensemble et avec Vincent Serroussi, évidemment.
RMC Estelle Midi.
C'est la campagne du jour, une campagne choc de la SNCF pour sensibiliser face aux agressions dont sont de plus en plus souvent victimes les contrôleurs. Alfred, la compagnie ferroviaire a décidé d'aller droit au but.
Oui, ton job, c'est de la merde, vieille peau, grosse vache, ça vous choque? Nous aussi, c'est avec ce slogan choc que la SNCF lance aujourd'hui sa campagne de sensibilisation fondée sur un constat. L'an dernier, 6000 actes violents, qu'ils soient verbaux ou physiques, ont été dénombrés sur des agents. 433 agressions ont débouché sur des arrêts de travail en hausse de 8% sur un an. Sachez qu'au même titre qu'un enseignant, un agent de contrôle SNCF est chargé d'une mission de service public. L'insulté relève donc de l'outrage et c'est aussi ce que veut faire valoir la SNCF qui entend rappeler aux usagers les sanctions encourues jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. La compagnie ferroviaire veut aussi multiplier par 2 le nombre de caméras piétons actives portées par ces agents, un dispositif qui, d'après la SNCF, apaise les situations de tension dans 94% des cas.
Hausse des incivilités contre les agents SNCF, devenons-nous de plus en plus agressifs? Vous nous appelez au 32-16. Thierry, est-ce que tu as ce sentiment?
Oui, clairement, on voit bien qu'il y a un non-respect de l'autorité sous quelque forme que ce soit. La SNCF, les soignants, moi je vois régulièrement dans la presse locale à Mantes-la-Jolie, les soignants se font agresser parce que ils estiment ne pas être pris en charge suffisamment vite ou suffisamment bien. Même chose pour l'éducation, qui respecte aujourd'hui son prof, et je dis ça avec beaucoup de tristesse évidemment, sans parler des refus d'obtempérer. Ce qui est fou, c'est que on a l'impression que dans ces situations, quand on entend un peu les histoires, que quand les gens sont agressifs, ils rendent responsable l'agent SNCF qui est en face de lui de tous leurs problèmes quotidiens et tous leurs soucis dans leur vie quotidienne. Comme s'il y avait une sorte de transfert vers quelqu'un qui incarne une sorte d'autorité, alors qu'en fait, le pauvre agent SNCF, il n'est pas responsable de la politique économique du gouvernement, il n'est pas responsable de ce que vous gagnez à la fin de du mois et de vos difficultés dans la vie. Donc c'est ça qui est compliqué. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Sanctions, ça c'est clair. Je pense qu'il faut être absolument impitoyable. Quand il y a des débordements, il faut que les gens soient sanctionnés au portefeuille. Et puis l'éducation. Et donc je pense que cette campagne, elle ne peut pas être suffisante, mais je pense qu'elle est nécessaire pour expliquer aux gens... On ne parle pas comme ça à quelqu'un qui détient même une infime autorité qu'est l'agent SNCF. Donc ça doit passer par une éducation. Ça va prendre du temps, ça va être long et ça ne peut pas passer uniquement par des campagnes d'affichage. Il faut aussi que le monde enseignant, les parents expliquent à leurs gosses, à leurs enfants, on ne parle pas comme ça.
Enfin, c'est les parents qui parlent mal aux contrôleurs dans le train, alors c'est ça le problème. Généralise, mais c'est vrai.
Regarde, t'as
plein d'enseignants aujourd'hui, d'enseignants qui te disent, nous, on essaie d'enseigner aux enfants à nous respecter, et là, il y a des parents qui arrivent dans le bureau et qui leur parlent comme.
Je suis d'accord avec toi, c'est pas
comme un copain, comme
un problème d'éducation, apprendre à la base, et ça va prendre une génération à changer.
Yael.
C'est terrible parce qu'en réalité, ces malheureux contrôleurs, ils se prennent la colère des usagers en raison de dysfonctionnement du système dont ils ne sont en rien responsables. C'est-à-dire on peut quelque part comprendre la colère des usagers et dans le même temps la trouver inacceptable. Enfin, je veux dire ces malheureux, enfin tous les contrôleurs, enfin tous ceux qui travaillent dans le système ferroviaire ne sont pas, c'est pas de leur faute. Voilà,
c'est pas un tonnerre, c'est ça le problème.
Mais c'est ça, et c'est ça en fait le cercle complètement vicieux et terrible pour ces malheureux qui se prennent des insultes et de plus en plus nombreuses et de plus en plus violente. On est vraiment dans de la grande violence verbale, voire physique parfois. Et je trouve que cette campagne, elle est indispensable et je la trouve même un peu tardive. Ça aurait dû être fait bien avant. Voilà, parce que c'est juste, ils ne peuvent pas supporter cette colère qui va malheureusement. Mais moi, j'ai peur aussi pendant les JO. Ça va être problématique parce qu'en plus avec l'augmentation des prix. Enfin bon, c'est tout un. Je pense qu'on a laissé, il y a eu trop de laisser aller dramatique. Voilà, sociétal qui englobe toutes les strates de la société.
Ouais.
C'est vraiment
le niveau de barbarisation d'une partie de la société, c'est pas tout, mais enfin le niveau de barbarisation.
Oui, mais moi, je t'arrête tout de suite. Tu dis d'une partie, mais moi j'ai l'impression, alors peut-être pas. Tu parles de barbarisation, j'irai pas jusque là, mais en tout cas de désinvolture ou d'agressivité ambiante, j'ai l'impression que ça se généralise.
Ah oui, oui.
Ça, c'est quelque chose. Et t'as des gens très bien. Attends, Perico, je te laisse parler, Perico.
Non,
ça me fait tout de suite réagir à ce que tu dis. J'ai le sentiment aujourd'hui quand même des gens très bien qui sont très bien dans la vie, qui paient leurs impôts, qui respectent la loi, qui éduquent correctement aux enfants, peuvent, face à une vendeuse dans un magasin, une caissière, parce que ça va pas assez vite, mais devenir quelqu'un d'autre, péter un plomb, quoi.
Tu as raison, il y a différentes étapes. Il y a des gens qui sont dans la mauvaise humeur, dans la réaction agressive, dans l'irascibilité, parce qu'ils supportent plus rien, et c'est l'uniforme, quel qu'il soit, ou le commerçant qui parce qu'on ne supporte plus l'individualisme est tel qu'on ne supporte plus le fait d'avoir une contrariété, ça commence à l'enfance aujourd'hui, et c'est l'école qui fait pas son boulot, et ce sont les profs qui veulent pas d'autorité qui sont à l'origine de cette dérive. C'est un autre sujet. Je parle de barbarisation, c'est-à-dire de gens à qui on demande d'appliquer le règlement. Que font les contrôleurs de la SNCF? Ils contrôlent les billets, et lorsqu'il y a infraction ou non conformité, dans la majeure partie des cas, heureusement, et je prends le train très souvent, ça se passe plutôt pas mal, j'ai assisté à des scènes surréalistes. Et l'autre jour encore, une contrôleuse qui avait du cran, antillaise d'origine, donc noire de peau, qui s'est fait traiter de raciste par quelqu'un qui lui a dit tu iras la tutoyer en l'insultant de tous les noms. La police est montée, heureusement qu'on a la police des chemins de fer qui est là, la police, mais c'était un niveau de tension juste pour quelqu'un qui était monté sans billet et qui voulait pas payer en disant mais moi j'ai pas à payer parce que je peux pas payer. Voilà, on transpose dans le train les réalités de la fracture sociale. Sauf que le niveau de violence, les termes utilisés et le sentiment d'impunité, parce qu'ensuite j'ai entendu je sais où t'habites, je te retrouverai et j'irai crever tes gosses. Ça, on l'entend. Et j'ai des témoignages de contrôleurs qui viennent me voir, puisqu'ils me reconnaissent souvent, ils regardent beaucoup l'émission. Ils me disent, vous ne savez pas, mais les policiers vous disent la même chose. Les gendarmes vous disent
les pompiers,
la même chose. Il n'y a plus peur de rien. Au contraire.
Les médecins, les ambulanciers.
Non seulement ça, l'uniforme est la cible de la haine de ces gens-là.
Oui,
donc, cette campagne, elle est pédagogique. Elle prend par les bons sentiments, elle essaie de faire de la pédagogie. Moi, je dirais, voilà, telle forme de comportement, c'est telle sanction. Et vous risquez gros si vous ne respectez pas. Je peux vous dire, de façon catégorique, parce que j'ai quand même passé 2-3 coups de fil ce matin à des copains qui sont en Espagne, en Italie, qui prennent beaucoup le train. Je vais pas dire qu'il se passe rien. Il peut y avoir de temps en temps quelqu'un qui est un peu
réglé. Mais là-bas, ça tombe, c'est ça?
Pas à ce niveau-là, pas avec cette violence verbale, pas avec cette fréquence.
Voilà, pourquoi?
Pourquoi ? Parce que dans ces pays-là, qui sont des démocraties, on respecte l'autorité. Il y a une éducation civique à l'école qui n'est plus enseignée en France. Il n'y a pas d'individualisme et il n'y a pas une idéologie de gauche qui dit « émancipez-vous, révoltez-vous, indignez-vous ». Ces gens-là sont les représentants de votre oppression, qui sont des gens salariés comme eux. Voilà. En France, cette idée est passée et nous avons aujourd'hui des leaders de gauche qui disent « quoi qu'il arrive le 7 juillet, il faudra savoir se rebeller, éventuellement envisager une insurrection contre eux ». C'est terrifiant. En République française, qui est la base de la constitution de l'ordre public en droit romain, d'avoir des gens qui prescrivent politiquement ce genre de situation. Comment voulez-vous ensuite que le gars, dans le train, quand on lui demande son billet, il dise pas « va te faire enculer au contrôleur ». Enfin, c'est épouvantable.
Hausse des incivilités contre les agents SNCF, devenons-nous de plus en plus agressifs ? Vous nous appelez au 32-16. Brice nous rejoint. Bonjour Brice.
Oui, bonjour à tous.
Merci bonjour. D'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est dans la Meuse, c'est ça Brice ?
Ouais, c'est ça.
Et vous êtes conducteur de train ?
Oui, alors avant je n'étais pas conducteur, j'étais contrôleur.
Ah bah, donc vous connaissez le sujet ?
Ah bah c'est pour ça que je ne suis plus contrôleur.
C'est vrai ? Oh.
Alors déjà je voulais passer un bonjour à tous mes collègues quand même qui travaillent aujourd'hui ou tous les jours et qui en chient face à des situations qui ne sont pas forcément de leur fait, qui subissent, voilà. Et un bonjour à Lionel Royer qui doit vous écouter là actuellement, donc voilà.
Lionel Royer, très bien, on le salue.
Lionel Royer, voilà. Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la SNCF est la cible du SNCF bashing, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Si vous regardez les réseaux sociaux, dès que la SNCF embauche ou qu'ils vous parlent des travaux de réseau qu'ils font, regardez les commentaires, vous allez voir, on est traité de feignants, de bourrin, toujours en grève. Si vous regardez les journaux télévisés, alors je suis obligé de le dire, mais on se fait tailler en permanence, mais en permanence. Et derrière ça, quand vous êtes dans la vie privée, que vous faites un repas avec des gens que vous ne connaissez pas, et qu'il y en a un qui dit « Ah bah, ça se passe bien à la SNCF », ah là, c'est parti, hein. Les débats sont partis, alors pas en grève, toujours en retard.
Je me permets de réagir à ce que vous dites, Brice. Souvenons-nous, moi, enfin, depuis que je suis gamin, j'ai toujours entendu ça, même à la télé ou ailleurs. Souvenons-nous du sketch de Coluche sur les fonctionnaires qui date de maintenant, il y a une quarantaine d'années. Brice, le fonctionnaire bashing, il a toujours existé. Sauf que moi, ce que j'ai l'impression, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on a passé un cap. C'est-à-dire que c'est pas seulement du fonctionnaire bashing, c'est-à-dire qu'on ne respecte plus l'autorité, l'uniforme.
Je pense qu'il y a quand même quelque chose. Moi, je suis parti juste avant le Covid, hein. Ouais. C'est plus, parce que j'ai été menacé de mort et d'autres insultes vis-à-vis de ma mère, que je ne citerai pas parce que par politesse.
Et donc, vous avez craqué psychologiquement?
Ah ben, j'ai dit, si je retourne contrôler, je vais les tarter.
Ben ouais. C'est ça le problème.
Ouais, parce que c'est plus possible. Mais regardez bien, je vais vous prendre un exemple. Actuellement, c'est difficile d'embaucher, par exemple, je pense, des coiffeuses, des serveurs, parce que les gens ne veulent plus avoir affaire aux gens. Ils sont insupportables.
Ouais, mais c'est vrai,
les gens ont oublié leurs droits. Ils ont des droits et des devoirs. Ils ont oublié leurs devoirs. Ils n'ont que des droits. Mais ces gens-là, ils bossent quelque part. Ben, j'aimerais bien un jour être client.
C'est le serveur qui sert le pas assez rapidement. C'est ça,
c'est les serveurs qui servent assez.
La caissière qui encaisse pas assez rapidement.
Voilà. La dernière mandat, je peux vous dire, pour la petite anecdote, ma contrôleuse, samedi matin, vendredi soir, elle condamne une voiture de première classe dans le train parce qu'elle a un problème électrique avec tout le maintien des portes. Bon, bah, elle condamne la voiture, il reste encore 8 voitures, bon, bah, il n'y a plus de première classe, mais c'est tout. Le samedi matin, je prends le train, je vais avec elle à Paris, je reviens avec elle de Paris, même train, il y a une dame d'un certain âge. Et d'ailleurs, il n'y a pas de statut social ni d'âge, hein. Vraiment, c'est à tout âge et à tout niveau social. Et il y a une dame qui lui prend la tête pendant une demi-heure, mais violemment et méchamment, en lui disant, comme elle avait un billet de première, oui, mais vous l'avez fait exprès. Mais elle dit non, elle dit, je l'ai condamné hier soir, le train, il roule, elle dit sinon, dans ce cas-là, le train ne roule pas et puis vous n'aurez pas eu de train du tout. Elle dit, vous allez vous faire rembourser la différence du billet de seconde avec la première sur le site. Ouais. Mais elle l'a pourri pendant une demi-heure. Donc ma collègue, au bout d'un moment, elle a dû clore la conversation et dire, écoutez madame, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant terminé. Donc je suis sûr que ma collègue va se faire alpaguer par la cliente en disant qu'elle a été pas aimable, méchante. Ouais. Mais en fait, elle a fait que son job. Et en plus, c'est pour des raisons de sécurité. Mais non, les journaux, ils s'en foutent, c'est SNCF, Brice. Donc on est mauvais, donc on l'a fait exprès.
Brice, reste avec nous. Jenny nous rejoint au 32-16. Bonjour Jenny. Ouais.
Bonjour Rémi, bonjour l'équipe.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Jenny, vous nous appelez depuis Londres.
Oui.
Très bien, vous faites quoi à Londres?
Oui, je suis chanteuse.
Chauffeuse,
chanteuse.
Chanteuse, pardon. Très bien, j'avais compris qu'on était. Oui. Bah, on est dans le transport, ça aurait pu être chauffeur d'un bus à l'impérial, pourquoi pas. On était à Londres. Vous êtes chanteuse. Ah, très bien. Chanteuse, c'est professionnel.
Oui, c'est mon métier principal.
Ah, super. Et vous êtes française?
Oui. Expatriée depuis.
Expatriée, parce qu'il y a le petit accent, donc je me demandais si vous étiez. En tout cas, vous avez bien pris l'accent.
Bien sûr.
Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est très joli l'accent.
Comme la Clark.
Jenny, vous, ce qui est intéressant, parce que vous habitez de Londres, donc vous avez une vision aussi de ce qui se passe là-bas, outre-Manche. Et puis, j'imagine, vous prenez les transports en France également, l'Eurostar peut-être?
Alors, j'ai eu pris l'Eurostar. Effectivement, je prends énormément les transports en Angleterre, donc qui fonctionnent un peu différemment, parce que comme vous l'avez souvent dit, effectivement, c'est des entreprises privées, donc c'est légèrement différent.
Ouais.
Mais c'est vrai que je trouve, en France, on dit, voilà, les gens deviennent de plus en plus agressifs, mais je trouve que du côté des contrôleurs, il y a aussi beaucoup d'agressivité. Mais je pense que tout le monde, parce que les contrôleurs sont aussi des citoyens comme les autres, pâtissent de tout ce qui se passe et aussi ont des comportements des fois qui sont un peu borderline. Alors moi, je ne l'ai pas vécu en France parce que j'essaye toujours d'être très polie et de pas faire de vagues. Mais je vois beaucoup d'histoires de gens et aujourd'hui, c'est beaucoup le handicap aussi qui pose problème. Et on voit des gens qui, handicapés, se font alpaguer par des contrôleurs qui manquent clairement d'empathie, de sympathie.
En France ?
Oui, en France.
Ouais. Brice, je ne sais pas si. Ouais, reste avec nous, Jenny. Brice.
Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, par
contre. Oui, non. C'est important ce que dit. Merci de le préciser, Jenny. Elle met pas tout le monde dans le même paquet, évidemment. Mais est-ce que c'est une tension ambiante, Brice, qui fait que les rapports d'un côté comme de l'autre parfois se détériorent?
Alors, je pense que déjà, il ne faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains.
Donc, c'est ce qu'a dit Jenny. C'est ce qu'a dit Jenny.
Voilà. Matin, vous levez, vous tapez l'orteil dans le montant de pied de porte. C'est mort. La journée va être compliquée, on va dire. Donc, il y a ça. Il y a le premier. Les gens sont pareils aussi. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a des collègues qui ont peut-être tendance à peut-être un peu être agressifs. Et du coup, ça renvoie une mauvaise image. Et ça monte très vite en épingle. Ça monte. C'est la surenchère. Là, c'est parti. En fait, on n'est qu'un miroir. On ne renvoie l'image que quand on renvoie, en fait. C'est compliqué. Par contre, pour ce qui est des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, il y a aussi un problème, c'est qu'actuellement, maintenant, il faut des infrastructures à la SNCF. Les gares sont ciblées, certaines gares sont ciblées pour les personnes à mobilité réduite. Et vous avez des gens qui ne se connaissent pas, donc ils se présentent à des gares où il n'y a absolument pas le matériel. Ben, vous ne pouvez pas les prendre en charge, vous n'avez pas le droit.
Et ça peut amener à des situations tendues.
Et ça amène à des situations tendues. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils t'enregistrent en tant que personne à mobilité réduite, par exemple pour le cas de qu'elle disait la jeune dame là. Et parce que le contrôleur, s'il la prend en charge et qu'il se passe quelque chose,
il est responsable.
Il est responsable et il est dans le tribunal et il perdra.
Merci Brice, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Jenny qui nous appelait depuis Londres. Julien Trocaz nous rejoint. Bonjour Julien Trocaz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes cheminot, secrétaire fédéral Sud Rail. On a entendu le témoignage de Brice, celui de Jenny. Il y a vraiment une détérioration du climat général, des relations clients et salariés et des cheminots. Ça se détériore de plus en plus.
Ça se détériore. Si vous voulez, quand on nous insulte, quand on nous fait passer de preneurs d'otages ou terroristes depuis des mois. Moi, j'ai entendu votre début d'émission où vous disiez, avant, ça se passait pas comme ça, mais on peut quand même accorder la ciblage des cheminots et des cheminotes depuis des mois améliore pas la situation.
On tape rarement sur les caissières et il y a de nombreux témoignages aussi.
Est-ce que vous trouvez que c'est juste d'insulte, de dire que les cheminots et les cheminotes sont des preneurs d'otages? Et vous pensez qu'en disant ça, pendant des semaines, en nous faisant passer pour les privilégiés, vous pensez qu'après, ça va apaiser une situation?
Donc, c'est la faute des médias.
Non, c'est pas que la faute des médias. C'est la faute.
Je sais pas, pas ce que vous dites.
Si vous me laissez parler un petit peu, je pourrais continuer en vous disant.
Allez-y. On est tout de suite dans un climat très agressif. Moi, un agent de la SNCF qui me parle comme ça dans un train, je ne ferai rien de mal parce que je suis quelqu'un de très discipliné, mais je me sens tellement agressé, là.
Pas bon?
Ouais.
Ah bon,
On peut se parler tranquillement. Julien, allez-y, Julien. Allez-y, Julien.
Parce qu'on est passé à 15 et qu'à 23, il faut qu'on raccroche.
Parce qu'on avait Brice, l'un de vos collègues, qui est cheminot et qui avait besoin de parler aussi. Mais allez-y, Julien.
Ouais, allez-y. C'est juste aussi très tranquillement, alors si vous voulez. Alors après, bah, je suis un peu agacé dans la période, je pense qu'on est, on est un peu plus anxiogène.
On va essayer de, voilà, allons-y tranquillement.
Ce qu'on a envie de se dire aussi, et ce que nous on voulait porter, c'est que les organisations du travail, et par exemple les règles de tarification, de régularisation, elles ne sont plus adaptées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une politique quand même de tarification à la SNCF, on pense qu'il faut remettre à plat et que c'est une des sources des fois des incivilités.
D'accord.
Donc,
avec
effectivement,
vous.
Effectivement, on condamne toutes les... Enfin, j'entendais dire la gauche va arriver au pouvoir et il va falloir être laxiste ou ça. Non, évidemment, on condamne les agressions et ce n'est pas normal que nos collègues soient insultés. À l'inverse, on pense qu'il faut prendre à la source les problèmes. Je finirai juste là-dessus. Quand tous les jours, dans la même ligne, entre Chambéry et Lyon, les trains sont toujours en retard, les incivilités, en fait, elles sont pas... les caricature.
C'est un ras-le-bol,
c'est un ras-le-bol du service public ferroviaire. Et quand on demande l'amélioration du service public, c'est une des sources. Évidemment, je suis conscient, ça ne va pas régler tous les problèmes. Mais traitons les problèmes. Il y a un plan communiqué.
Vous voyez, Julien Trocaz, on reste en calme, on peut être tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je coupe la parole à chaque fois, en fait.
Bah, mais c'est un problème global. Vous avez raison, Julien Trocaz, et qui est certainement pas que de la responsabilité, ni des voyageurs, ni des salariés de la SNCF. Merci beaucoup, Julien Trocaz, d'avoir été avec nous, cheminot, secrétaire. Merci, secrétaire fédéral.
Ajouter quand même le problème de la gestion de la frustration. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens veulent tout de suite.
Souviens-toi de...
Des
reportages. Souviens-toi des reportages qu'on a vus il y a quelques temps sur des salariés de la Poste, il y a quelques années déjà, oui. On leur apprenait ou des salariés de la Sécu à gérer les conflits avec. Oui. Ils avaient des ateliers.
Je pense que Julien aurait dû surtout nous dire qu'aujourd'hui les agents de la SNCF sont formés pour garder leur calme et que quand même dans 99% des cas.
Les gens qui parlent de prise d'otages sont des gens qui sont en général extrêmement respectueux de la réglementation. Voilà, et justement ils reprochent aux cheminots de ne pas l'être.
On va aller vers Alfred. Alfred, on vous a posé la question, les incivilités qui se multiplient contre les agents SNCF, est-ce que nous devenons de plus en plus agressifs?
Vous répondez oui à 90%, non
à
10%.
On a l'honnêteté au moins de le reconnaître.
Voilà, je finis avec un témoignage de Jacqueline qui nous écrit: mon petit-fils de 17 ans a pris le train il y a 15 jours pour aller à Bordeaux avec sa petite copine, première sortie en amoureux. Oh. Il a pris les billets sur internet et s'est trompé de jour. Les billets étaient à la date du lendemain. Gentil, propre, respectueux, il a tout de même pris une amende de 100 €. Je trouve ça scandaleux. Ça ne s'étonne pas d'être mal vu.
Bon, allez, dans un instant, RMC Conso, les cadeaux faits par les marques pour votre anniversaire, sont-ils vraiment gratuits?
Ah,
Perico, tu vas savoir dans un instant, c'est dans un instant donc.
Non,
dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story. Charlotte Mériton nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC Conso.
J'ai eu un doute, on est le 25 juin, c'est ça, ou 24? Je sais plus, personne ne le sait. 24 juin.
Jean-Baptiste.
C'est peut-être votre anniversaire aujourd'hui. Donc ce matin, dans vos mails, vous avez peut-être découvert plein de petits mails sympas, de grandes marques qui disent: oh, bon anniversaire, c'est un jour pas comme les autres. Vous avez gagné, nous vous offrons. Mais Charlotte, est-ce que ce sont vraiment des cadeaux?
Oui, déjà, est-ce que vous saviez qu'on pouvait avoir des cadeaux comme ça en faisant le tour des magasins le jour de son anniversaire?
Ah, faut faire le tour des magasins?
Bah oui, moi je l'ai fait en tout cas il y a quelques semaines pour mon anniversaire. Et donc j'ai récolté. C'est vrai?
Bah oui, mais si j'avais vu.
Pour l'année prochaine. Moi j'ai récolté ça. Alors, j'ai récolté un café latte chez Starbucks. Un petit parfum de 30 ml chez l'enseigne Adopt, une petite crème hydratante chez Sephora, une petite plante chez Truffaut. Alors je précise à ceux qui nous regardent sur MC Story qu'à la base elle était en bonne santé.
Elle fêtera jamais son anniversaire.
Non, mais il paraît qu'on peut la rempoter. Alors à la base elle était tout à fait fringante, hein, cette plante, et j'ai pas su la faire survivre.
Il y a des araignées dessus, des petits poulets. Mais c'est vrai, je rigole pas. Il y a des bêtes. Ouais, je connais, mais j'aime bien les plantes. Il y a des bêtes. Là c'est bon.
Ça prouve que ça vit, qu'il y a de la vie. Et enfin une croisière sur la Seine.
Non.
Le tout. Oui.
Ah ça c'est sympa ça.
Attends.
Le tout pour une cinquantaine d'euros. Quand même, hein, de cadeaux récoltés. Pas un seul de ces cadeaux ne m'a été offert par un proche, tous par des marques, parce que oui, de nombreuses enseignes le proposent. Alors c'est une liste qui n'est même pas exhaustive, vous pouvez en avoir encore d'autres si vous voulez.
Il y a forcément une contrepartie.
Bien sûr. Alors elle n'est pas la même partout. Certains conditionnent ces cadeaux à la réalisation d'un certain nombre de dépenses dans l'année. Par exemple, chez Starbucks, c'est 150 €. Chez d'autres, il faut avoir fait un achat au moins dans l'année, c'est le cas d'Adopt. Et puis pour la plupart, il faut au minimum adhérer au programme de fidélité sécurité. Donc oui, ça veut dire communiquer un certain nombre de ses données personnelles. Et finalement, c'est ça que vous vendez en l'échange d'un cadeau. Votre prénom, votre nom, votre département de résidence, votre numéro de téléphone, votre adresse email.
Ouais, donc la garantie d'être harcelé par les mails après, quoi.
Bah moi, par exemple, je me suis justement inscrite au programme de fidélité dans une des enseignes de parfumerie où je suis allée pour avoir le cadeau. Et depuis, alors en une semaine, j'ai reçu 4 mails. Bienvenue chez nous, Charlotte. 20% sur votre prochain achat.
C'est ton anniversaire tous les jours.
Votre cadeau vous a plu, Charlotte? Charlotte, qu'avez-vous pensé de votre visite? Et comme ça, un petit peu tous les jours. Donc oui, ces données-là, elles sont utilisées pour essayer de savoir quand et par quel moyen on va pouvoir vous inciter à revenir dans le magasin et vous faire acheter toujours plus.
Donc il y a l'hameçon de l'anniversaire, du cadeau d'anniversaire plutôt. Est-ce que ça marche vraiment ensuite pour ces marques?
Bah oui, ça marche. Alors malgré l'agacement que tout ça peut solliciter chez nous, tout cet excès de sollicitation, nous sommes des adeptes des programmes de fidélité. Selon un sondage IFOP de 2023, 93% des Français acceptent d'adhérer au programme de fidélité quand on leur propose et 76% le font pour les avantages financiers que cela leur procure. Et c'est vrai que le cadeau d'anniversaire, c'est à la fois un moyen de satisfaire le besoin du client d'en avoir pour son argent, entre guillemets, et un moyen de tisser un lien affectif avec lui à travers l'aspect plus personnel du cadeau par rapport à un simple bon de réduction, par exemple.
Et est-ce que ça a un effet visible sur les ventes de ces grandes marques?
Ça fidélise vraiment le client, et selon plusieurs études, dont une de la Harvard Business Review, lorsqu'une entreprise augmente son taux de fidélisation de 5%, elle génère une hausse de bénéfices de 85%. Donc vous comprenez maintenant pourquoi autant de marques vous font des cadeaux pour votre anniversaire. Alors je vous signale quand même que le cadeau La Croisière sur la Seine m'a été fait sans aucune contrepartie. Là, j'ai pas donné mon adresse mail, j'ai pas donné mon nom, j'ai rien donné du tout.
C'est les vedettes de Paris.
C'est les vedettes du Paris. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai contacté la compagnie pour en savoir un petit peu plus, et elle m'a expliqué qu'elle ne souhaitait pas faire de communication particulière à ce sujet, sans doute par peur de l'affluence que ça pourrait générer. Donc bon, ça reste entre nous.
15 jours après la date anniversaire, est-ce qu'ils feront encore? Je vais aller les voir.
Non, c'est uniquement le jour J. Ben, ça sera l'année prochaine.
Faut juste pas tomber à l'eau en ce moment dans la Seine, mais sinon il y aura.
Ah oui,
problème.
Oui, non, ça risque pas.
À s'en prendre à des entreprises du Nord. Mais merci beaucoup, Charlotte.
Et ben, de rien.
Demain, tu es là, on parle de quoi demain?
Demain, je vais vous ramener à un pique-nique un peu particulier.
C'est-à-dire
c'est-à-dire du jambon végétal et des sandwichs au jambon végétal. Et je vous demanderai de bien vouloir tester pour moi.
Je suis pas là, demain ça tombe bien.
Je vais manger un morceau avant quand même. Allez, merci beaucoup Charlotte. Dans un instant, comme tous les jours, ce sont les immanquables avec Alfred. Alfred, on va parler de quoi notamment?
Où sont les touristes? On est à Paris, à un mois des Jeux. Pas de touristes en ce moment. On va parler de ce creux de la vague pour le tourisme à Paris.
Ah, c'est vrai, ça tombe bien.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Il est là, il est prêt, il s'appelle Alfred Orange.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables, Alfred, et on commence avec la manif du jour.
Oui, on l'a appris aujourd'hui, elle aura lieu vendredi à Périgueux pour empêcher l'arrivée d'un restaurant Burger King. Appel relayé par le syndicat agricole de la Confédération Paysanne, ce sera en fait le troisième restaurant Burger King dans l'agglomération, à l'heure où Périgueux est candidate auprès de l'UNESCO pour être labellisée ville gourmande. Le syndicat agricole fustige une décision irresponsable alors que 87% des produits de l'enseigne ne répondent pas aux critères nutritionnels de l'Organisation Mondiale de la Santé et qu'un enfant sur 6 en France souffre de surpoids et d'obésité.
On est à Périgueux, 3 Burger King, trop c'est trop. Ah ouais.
Nous avons vu dans cette émission la maire de Périgueux, ouais, qui a essayé de faire, ils n'ont pas le pouvoir, les maires ne peuvent pas empêcher l'installation d'une entreprise. Elle a essayé de faire en sorte que voilà, c'était une autre enseigne qui voulait s'installer, là c'est Burger King, Périgueux, capitale du Périgord, donc j'allais dire épicentre d'un des patrimoines de la gastronomie française, et effectivement, j'ai connu beaucoup de maires qui étaient terrorisés à l'idée que dans leur ville s'installe cette enseigne de la malbouffe, pour eux ça c'est la malbouffe, qui va au contraire de toutes les prescriptions nutritionnelles que l'on peut donner environnementales et autres. Ça ne veut pas dire que le hamburger est un mauvais aliment et qu'on ne peut pas manger de temps en temps, mais ces enseignes-là sont symboles de l'américanisation.
Mais en même temps, Périquero, s'il y a un troisième restaurant Burger King qui s'installe, c'est que ça marche, c'est que les gens demandent.
Ah mais
ils en sont clients, ils en sont clients.
Vous savez que le suffrage universel donne pas toujours du pouvoir aux démocrates et que l'opinion publique a pas toujours raison. Donc c'est pas parce qu'il y a une tendance consumériste de masse qui est destructrice de l'humanité qu'on va se dire on s'incline puisque les gens en veulent.
Oui, mais justement, empêcher le restaurant, est-ce que c'est la bonne façon de lutter? Non, manifester contre
non,
le
la meilleure façon de lutter, c'est d'apprendre dès l'école qu'il ne faut pas abuser de ce genre d'alimentation.
Oui, mais par exemple,
la pédagogie.
Alfred mais nous rappelait les recommandations de l'OMS en disant que c'est des restaurants qui ne respectent pas les recommandations de l'OMS. Elles ne sont pas contraignantes. Pourquoi ne pas se dire, ben voilà, un restaurant, on l'installe à condition qu'il respecte les recommandations
de l'OMS. Non, mais il respecte les lois. C'est que le système alimentaire qu'il représente, le système économique et l'usage qu'ils font de l'agriculture, même s'ils se targuent de faire travailler de la pédagogie, un peu de législation.
Une génération.
Parce que c'est trop tard, mais il faut expliquer qu'il ne faut pas... Le problème, c'est l'abus de ces aliments-là, c'est pas l'existence, il y en aura toujours. C'est l'abus et le systématisme aujourd'hui, parce que c'est pas cher et que la facture sociale...
Si c'est cher.
Alors c'est devenu plus cher que ça n'a été, mais ça reste accessible pour des gens.
Ouais.
En tout cas, c'est un symbole, c'est vraiment le symbole de la malbouffe. Plus on le réduit, mieux c'est.
Moi, je suis plus choqué, tu vois, que Burger King ait embauché le meilleur chef du monde pour faire des burgers.
Ça, c'est le stade suivant.
J'ai été très choqué.
Alors là, c'est
parce que je me dis qu'un chef qui est censé défendre le bien manger, qui prête son nom en étant tête de pont d'une campagne publicitaire de Burger King en disant
mais
j'en ai parlé des burgers.
J'en ai parlé plus tard que vendredi. Non, dans un cadre privé, j'en ai discuté.
Ah.
Non, mais et on en est.
C'est un sujet récurrent.
Non, mais c'est vrai. Moi, parce qu'il faut dire les choses. On va pas pointer du doigt la personne.
C'est
pas le premier à le faire d'ailleurs.
Il touche.
Péricot, on va pas se leurrer.
Alors,
faut arrêter de prendre les gens pour des jambons.
Le chef dirait. Le chef en question dirait, je veux bien promouvoir la marque, mais je prouve que la marque a fait un effort nutritionnel sur le type de produit, sur le.
Mais alors, c'est peut-être la vérité, hein.
Alors, c'est
toujours un burger. Et si tu vas tous les jours, tu seras en mauvaise santé, je suis désolé.
Soyons
honnêtes, un burger, nutritionnellement parlant, un burger. Ça peut pas être bon.
4 par mois, il n'y a aucun problème.
On est d'accord, ça ne peut pas être bon pour la santé.
Alors, si c'est un burger avec de la viande fraîche, de la salade fraîche, il ne sera pas
bon. Oui, mais il y a quand même un aspect. Tu disais, Rémi, que les prix avaient augmenté, mais ça reste quand même.
Ah, ben c'est sûr.
Oui, mais ça reste quand même pas cher.
D'accord. On ne peut pas dire que c'est pas cher.
Voilà. Donc, les pauvres
sont condamnés à bouffer de la
salade. Mais c'est ça le problème.
Les pauvres, ils
ne
vont pas au Burger King.
Et les vrais pauvres ne sont
pas. Ils n'ont pas les moyens d'aller au Burger King. Ou au McDo.
C'est une pauvreté moyenne.
Oui, mais les pauvres n'ont pas les moyens de. De bien manger.
C'est un vrai sujet de société. Et la France est le pays où on est le plus, entre guillemets, contaminé par cette forme.
On est le deuxième, on l'a déjà répété 1000 fois, mais pourquoi ne pas le répéter? On est le deuxième pays, le deuxième marché mondial pour McDonald's.
Du fast-food.
Wow, c'est voilà.
Du fast-food en général.
Allez, la baisse du jour.
Oui, malgré le retour du beau temps, le tourisme à Paris connaît un trou d'air avant les Jeux Olympiques. D'après l'Office du tourisme de la ville, l'activité touristique est en recul de 15% par rapport à la même période l'année dernière. Seulement 63% de taux d'occupation dans les hôtels cette semaine, par exemple. Le calme avant la tempête qui pousse les hôteliers à faire des gros rabais sur les nuitées.
Thierry,
c'est pas étonnant.
Pourquoi ?
Moi, je ne vais plus dans le centre de Paris. C'est devenu absolument incirculable,
impraticable,
infréquentable, sale. Enfin, c'est là aujourd'hui, on paye la note. Aujourd'hui,
exactement.
On paye la note. On paye
exactement.
Enfin, l'industrie du tourisme.
On s'est vu plus beau qu'on n'était.
Ah ben, mais tellement. On a tellement promis d'abord déjà que ça serait formidable et que ça l'est pas tout à fait. On a renoncé sur pas mal de choses. Je parle de la mise en beauté de notre ville par rapport aux JO. Et puis alors. Il y a un deuxième aspect aussi, hein, c'est qu'attention, aussi bien les professionnels du tourisme que les particuliers ont vu
une sorte de
nirvana, ça allait être le top, on allait louer nos appartements 4 fois leur prix, etc. Ouais. Et ça, en fait, c'est pas du tout arrivé, donc on revient un petit peu à des choses un petit peu plus normales. Voilà, je pense que les deux phénomènes se conjuguent. Pour expliquer cette baisse.
Yael.
Alors, première chose, retour du beau temps, ça fait 24 heures déjà, hein, parce qu'on a eu
c'est
deux.
Pas vrai,
voilà,
c'est
donc pas longtemps, bon.
Pas
de... Deuxième chose, ça peut aussi s'expliquer. Alors évidemment, il y a des quartiers, c'est des véritables poubelles. On ne peut pas circuler. Enfin, je veux dire, c'est un enfer. Si on avait des métros qui circulaient correctement, bon ben, on pourrait pallier. Et il y a aussi l'insécurité. Hein. La très forte insécurité. Je veux dire, il y a des viols de rue à Paris, de touristes, au Champ de Mars. Je veux dire, il y a de quoi quand même jeter un petit froid. Voilà, niveau tourisme, tout de même. Donc, voilà.
Un bémol, il y a encore des secteurs du tourisme qui marchent très très bien et qui font des profits gigantesques et il y a une partie qui est pénalisée. Vous avez oublié une réalité. Les prix commencent à devenir terrifiants pour cette catégorie sociale. de touristes. Ils viennent juste, ils repartent. Et ensuite, tout ce que mes amis ont évoqué là, cette ville qui était sublime en termes de visite mondiale, c'était vraiment la ville du tourisme des étrangers. Et j'ai des amis intimes, allemands, belges, anglais, qui venaient par la gare du Nord, par la gare de l'Est.
J'allais parler de la gare du Nord.
Pour un oui, pour un non, pour des affaires, ils ne veulent plus. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette ville?
Moi qui fréquente la gare du Nord tous les jours, matin et soir. Je sais bien. Je suis en train de voir ce qu'ils allaient faire pour les JO, parce que c'est quand même amusant. nos amis britanniques arrivent tous par là, et néerlandais et belges. Pour l'instant, rien n'a changé. Ils ont mis des banderoles avec des drapeaux de tous les pays pour les JO. Il y a une boutique JO en plein milieu, qui est très moche d'ailleurs. C'est mon avis. Et la façade, sur la façade, bienvenue à Paris, Paris JO, Paris 2024. Pour l'instant, c'est le seul changement que j'ai vu.
Macron a dissous l'Assemblée nationale et Anne Hidalgo a dissous Paris.
Bon. Allez, l'inflation du jour.
Oui, elle concerne des milliers d'écrevisses de Louisiane qui envahissent l'ouest de la France. Après les pluies de ces dernières semaines, le crustacé envahit les routes, les jardins et les rivières. Ces colonies qui circulent parfois par dizaines pullulent grâce au changement climatique et aux hivers plus doux que connaît notre pays. Et elle terrorise surtout les pêcheurs parce que l'écrevisse tue les poissons, mettant à mal l'équilibre de la faune et de la flore. Prise de court, les autorités n'ont pour le moment aucune solution pour lutter contre la prolifération.
Ce genre d'événement, Perico, c'est ce qui nous attend dans les mois, les années qui viennent, de plus en plus.
Film de science-fiction, heureusement qu'elles ne sont pas géantes. L'écrevisse est le symbole, j'allais dire, du patrimoine naturel fluvial français, avec un élément culinaire gastronomique fabuleux, le buisson d'écrevisse. Cette variété européenne française s'appelait Astacus astacus. Elle a disparu parce qu'elle a été colonisée par une première variété américaine qui n'était pas nocive. Et là, on a celle-ci, je la connais. Elle est agressive même avec, quand on met la main, elle pince. Voyez? Elle a envahi une partie de l'Espagne. Elle est comestible, attention. Mais elle est en train de ravager. L'écrevisse, c'est un petit homard, quelque part. Mais c'est un prédateur épouvantable. Oui, alors il va falloir relancer l'activité des crevisses, là, vous voyez. Et Dieu sait s'il y a des recettes. Mais effectivement, c'est un prédateur très agressif. Elle est en train... Alors, on a le silure, déjà, qui est en train de vider les rivières et les fleuves de France de nos poissons habituels. Le brochet, la perche, le goujon, le gardon. Et là, maintenant, on a l'écrevisse américaine qui vient...
Qui tue les alpins.
Voilà, on est confronté à un phénomène écologique, un désastre écologique irréversible. Et le ragondin. Qui était là aussi qu'on a élevé
le ragondin,
mais sauf que là la reproduction est la multiplicité la courbe fait qu'aujourd'hui on a des territoires qui sont sinistrés des berges de rivière par les ragondins.
Le pâté de ragondin, c'est très
bon. Justement, c'est ça le problème.
Bonjour, des écrevisses et du pâté de ragondin,
c'était pour faire de la fourrure, ça n'a pas marché, mais ils se sont reproduits, les pauvres, voilà. Donc on est mal barré. Bon, en tout cas, voilà, il faut revenir au gratin d'écrevisses.
Tu as l'air terrifié.
La crevisse, oh là là, ça me fait. Ah non, je m'imagine pas du tout.
En train de te promener en Vendée sur les bords d'une petite rivière, sur une route.
Déjà, moi, c'est
merveilleux. Un chemin forestier et soudain, une quinzaine d'écrevisses
qui n'avaient pas grand chose dessus. Mais moi, déjà, mer Méditerranée, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même.
La Méditerranée, on a pris un coup aussi.
Les méduses.
Bon, allez. La réouverture du jour.
Oui, c'est ce soir que l'autoroute A13 rouvre complètement. Deux mois après sa fermeture pour cause de fissure, l'axe qui relie la Normandie à Paris sera de nouveau opérationnel. 100 000 automobilistes l'empruntent chaque jour et devaient depuis le mois d'avril dernier emprunter des itinéraires alternatifs bondés qui rajoutaient et qui rallongeaient considérablement leur temps de trajet.
Thierry Moreau va revivre.
Je confirme. Je suis obligé de partir un peu plus tôt pour être à l'heure, pour rester le midi, ce qui n'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça va être un ouf de soulagement. C'est dire à quel point aujourd'hui on se rend pas compte des choses qui nous paraissent extrêmement naturelles et simples, donc une route en l'occurrence, pour un problème de fondation qui est gravissime, parce qu'évidemment, s'ils ont coupé, c'est par principe de précaution pour pas que la route s'écroule. Donc ils ont mis beaucoup de temps à refaire les fondations de cette route pour qu'elle tienne le coup, mais c'est une artère essentielle d'arriver dans Paris, et le fait de l'arrêter a été un problème depuis ça fait deux mois maintenant que ça dure.
C'est ça.
Donc c'est compliqué, donc ouf de soulagement.
Et c'est preuve aussi que la voiture reste indispensable pour des millions de Français au quotidien.
Je roule en électrique.
Ça signale quand même que cet immense corps de l'État qui était les ponts et chaussées aussi eux-mêmes, comme tous les autres services, une petite défaillance technique.
On a laissé nos routes à l'abandon depuis des dizaines d'années, parce que c'est des investissements qui ne se voient pas. C'est-à-dire quand l'argent l'argent, quand l'État met de l'argent dans les routes, évidemment, ça ne se voit pas. Sauf qu'on le paye au bout de 20 ou 30 ans. Et là, ce que dit Péricot, j'adhère complètement.
Au moment de l'incident du pont de Mirepoix, le Sénat avait fait une enquête publique. Ouais, il y a 25 000 ponts et voies qui sont en état de...
délabrement.
C'est super anxiogène, là. C'est très anxiogène.
Bien sûr.
Allez, on termine avec l'évasion du jour, Alfred.
14 étrangers détenus au centre de rétention administrative de Vincennes se sont évadés samedi. Les fugitifs ont réussi à sectionner le toit grillagé du centre. Un seul fuyard a été retrouvé. Les 13 autres sont toujours dans la nature. Tous ces étrangers faisaient l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de leur renvoi forcé. D'après une source policière, aucun profil à risque n'est toutefois à signaler.
Yael.
Je ne sais pas, parce qu'il me semble que sur les 13 qui sont encore dans la nature, il y en a qui venaient de sortir de prison.
Oui.
D'accord. Donc, a priori, quand on sort de prison, c'est qu'on a un profil inquiétant.
C'est qu'on a fait une connerie.
On a fait quelque chose de pas bien. Oui. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas communiqué, justement, sur la nature des infractions pour lesquelles ils ont été condamnés. Donc, moi, je ne suis pas très, très rassurée, en réalité.
Et est-ce que tu es étonnée par. Même si c'est.
C'est pas la première fois, me semble-t-il.
On a l'impression que c'est tellement facile.
Ah, mais c'est.
Ce ne sont pas des prisons. Il faut bien
comprendre. C'est vrai que
même dans les prisons. Un peu différent. Un centre de détention, une maison d'arrêt, c'est une prison, on est condamné, on est en attente d'être condamné. Le centre de rétention, c'est un endroit où on vous met en attendant une décision.
Et où tu es retenu.
Donc on vous empêche d'aller vaquer sur le territoire, et vous n'êtes pas emprisonné. Alors après, on peut décider.
Ah oui, mais tu n'as pas le droit de circuler, normalement.
Ils ont perforé le toit, pour sortir. Et ensuite, ils ont défait le grillage.
Mais facile.
C'est pas une privation de liberté.
Non, mais c'est pas une privation de liberté, mais enfin, c'est quand même révélateur, je pense. Je ne sais pas. De l'état lamentable dans lequel sont nos centres de rétention, nos centres éducatifs fermés pour les ados, nos prisons. On a vu avec le drame qui est survenu avec les gardiens pénitentiaires qui ont été abattus lors de l'évasion de Mohamed Amra. On a découvert des choses incroyables sur la manière dont ils pouvaient vivre en détention, où se procurer des téléphones, recevoir des gens qui n'étaient pas là.
Oui, c'est plutôt liberté, égalité, passoire. Hein,
Allez, merci pour cette conclusion. Péricot. Et tout de suite, on va accueillir un autre humoriste.
Ah bah.
Vincent Cerussi.
Il a du talent, lui, c'est ça.
Ouais.
RMC, Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Salut Vincent, installe-toi. Pendant que Péricot, t'as entendu, il essaie de te piquer ton job.
Oui, mais j'ai vu. Il est drôle aussi.
Le véritable humoriste, il est là, il est à côté de moi. Vincent.
Oui, c'est moi. Bonjour Rémi.
Tu ne comprends pas pourquoi François Hollande a bu une bière cul-sec.
Bah écoutez, j'ai envie de vous dire quand même, pour une fois qu'Hollande fait quelque chose jusqu'au bout, on va pas lui jeter la pierre au petit François. Puis ça va, il a déjà avalé ses convictions pour s'allier au Front Populaire, il peut bien avaler une bière, en réalité. D'ailleurs, on découvre que François a eu une très bonne descente. Hein. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'il s'y connaît en descente, il a fait ça pendant 5 ans dans les sondages. Mais bon, pour moi, ça reste quand même un petit joueur. Hein. Je suis désolé, il a bu qu'une bière. Je veux dire, une bière pour Jean Lassalle, c'est un petit déj, hein. Faut pas l'oublier. Donc François.
Tu te penses que François Hollande n'aurait pas dû boire cette bière?
Il faut demander à Péricot. Vous l'avez pas entendu? Il était à côté de François Hollande quand il buvait.
Il est des nôtres. Il a bu son verre comme les autres.
Bon, le problème après, c'est qu'avec Hollande, tu sais jamais vraiment s'il est bourré ou pas, parce que même quand il a pas bu, il peut te sortir ça.
I raise my glass in honor of the United States of America. Long live the United States.
Voilà. Je sais pas s'il est bourré là. Je sais pas s'il est bourré. Après, il y a quand même du positif en vrai. Déjà, après avoir bu, François Hollande s'est fait applaudir. Voilà. Ouais, c'est même pas arrivé depuis 1992. Je veux dire, même lui, il était tout mignon, un peu perdu. Il savait plus quel bruit ça faisait, les applaudissements. Et puis surtout, l'autre nouvelle, c'est que Léa Salamé aurait annoncé quitter Glucksmann pour se mettre en couple avec François Hollande. Parce qu'elle adore les mecs qui boivent de la bière. Elle a été voir Glucksmann, qui boit plus trop, et elle lui a dit,
Vous êtes devenu chiant, Raphaël.
Vincent, on s'est aussi demandé s'il fallait supprimer les régions comme le propose Éric Ciotti.
Ben Éric Ciotti, oui, il veut supprimer les régions. Il vaut mieux pas que les Corses la prennent, sinon c'est eux qui vont supprimer Éric Ciotti. Après, je sais pas s'il y a vraiment besoin de supprimer les régions. Parce que à Nice, par exemple, il y a tellement de vieux, la région va se supprimer toute seule. Hein. Pas la peine de prendre ces mesures.
Tu es pour cela. Et toi, est-ce que personnellement, tu es pour la suppression des régions, Vincent?
Supprimer les régions, Rémi, encore faut-il que tout le monde les connaisse.
Le Grand Est, les Alpes, tu vois.
Supprimer les trucs qu'on connaît, quoi. Ouais. Bah, écoutez, ça dépend des régions. Il y a des régions, on peut les supprimer. Je pense que ça fera chier personne. L'Auvergne, par exemple, il y a 3 moutons, 2 zadistes. Bon, ça passe. C'est juste que c'est un peu contradictoire parce que le Ciotti et des membres du RN qui veulent supprimer les régions. Mais si l'Algérie peut redevenir française, c'est pas là, ils disent pas non. Donc c'est un peu contradictoire.
Bon, mais tu penses que ça va provoquer de gros changements?
Bah, déjà, s'il y a plus de Bretagne, Estelle arrêtera de mettre des marinières. Ça fera de mal à personne. Et surtout pas aux yeux. Et puis en plus, non, le problème c'est que ça sera un bordel monstre, quoi. Comment on va faire avec le Mont Saint-Michel, par exemple? Déjà que les Bretons et les Normands s'en disputent la localisation. S'il n'y a plus de région, t'as des Alsaciens qui vont le revendiquer. Maintenant, ça va être le bordel. Et puis en plus, c'est pas pratique pour se repérer. Je suis désolé s'il n'y a plus de région. T'imagines? Tu pars où cet été? Bah, au milieu, un peu à gauche, en bas de la France. Bah voilà. Sans parler du concours Miss France. S'il n'y a plus de région, il n'y aura qu'une participante maintenant. Mesdames, messieurs, bienvenue au concours Miss France 2025. Pour voter pour la première Miss, envoyez un par SMS. Pas la peine d'envoyer deux, c'est la seule. Voilà, donc laissez-nous nos régions, s'il vous plaît.
Bonne motivation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Un autre Vincent est avec nous, Vincent Moscato. Je ne sais pas s'il est avec nous. Si, il est là.
Oui, je suis là. Je suis complètement barré. Voilà. Comment ils vont?
Le foot nous laisse un peu respirer. Tu peux reprendre la main, Vincent.
On va parler des cartons rouges, des cartons jaunes. Ça s'est bagarré pendant ces demi-finales. On va parler Wardy, Antonio qui a été expulsé. On en parle, bien entendu. Clarisse Abeignanou sera notre invitée.
Oui,
champion olympique. On tutoie l'excellence. On a pas peur.
Attention.
Bien entendu, un débat du Kiki. On va faire un débat de le Kiki Mbappé. Est-ce que l'équipe de France est dépendante d'Mbappé? Le masque de fer, il sera là, Edmond Dantès.
Tu préfères la version bleu-blanc-rouge, la version tout noir? Le masque.
Sinon, déjà, je vais te dire, quand t'as un nez cassé, tu mets pas de masque, t'avances comme ça, ça fait peur à l'ennemi. Tu vois, t'as le nez en travers, comme ça, le mec dit, celui-là, c'est dur à cuire. Voilà, donc ils sont fous de son nez cassé, Kiki. L'important, c'est est-ce qu'on est dépendant? Et puis, Dembélé qui est bon, ben voilà, quoi, tu vois. Le problème, il va très vite, mais il fallait lui enlever le ballon, il fallait qu'il fasse de l'athlétisme. Au ballon, il est pas très. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça, alors, des débats comme s'il en pleuvait.
Tu m'as l'air en pleine forme.
Je suis en pleine forme, j'ai pris une semaine de repos, là, j'en peux plus.
Et la bière cul sec. Allez.
Ah ouais, écoute-moi, des tonneaux, on a bu. Des tonneaux cette semaine.
Merci, Vincent. Belle émission, le Super Moscato Show. C'est tout de suite. On t'embrasse aussi sur RMC. Et nous, Estelle, midi, on se retrouve demain à partir de midi jusqu'à 15h sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. À demain.